Conférence à l'université Paris Descartes, c'est une des universités de Paris, faculté des sciences humaines et sociales, en linguistique générale et appliquée, et qui va nous présenter son intervention porte sur le titre « Entre valeurs universelles et centration sur le sujet, comparaison de manuels de lecture ».
Fonde sur ce que j'ai appelé la linguistique de discours comparative, qui a comme objet la comparaison descriptive et interprétative des genres discursifs dans au moins deux communautés ethnolinguistiques, à l'aide d'entrées compositionnelles, sémantiques et énonciatives essentiellement. Alors, en ce qui concerne le manuel de lecture, je me suis notamment demandé quels textes ont été choisis pour ce manuel, quels thèmes ont été abordés par l'intermédiaire des textes et à quoi réfèrent les activités qui suivent les textes. Alors, j'ai aussi étudié l'organisation du manuel et des différents chapitres, de même que le péritexte du manuel et celui des textes de lecture. Et j'ai réfléchi également sur la structure argumentative de certains textes présentés dans ces manuels. Et j'ai étudié le positionnement de la personne du locuteur et du récepteur, et enfin les désignations et les caractérisations qu'on trouve dans les textes de présentation rédigés par les auteurs des manuels. Alors, le premier point, c'est le choix des textes. On constate tout de suite que le choix des textes dans les manuels français s'arrête très majoritairement sur la littérature, alors qu'on trouve beaucoup de textes non littéraires dans certains ouvrages allemands, surtout lorsqu'ils sont destinés aux filières professionnelles. Or, le choix d'un texte non littéraire dans un ouvrage français est presque toujours motivé de façon thématique. Alors, dans le manuel de chez Magnard, par exemple, figurent des lettres de soldats et des articles de propagande datant de la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale est l'un des thèmes qui est abondamment traité dans ces manuels. Alors, parmi les textes littéraires, une grande partie relève de la littérature pour adolescents dans les manuels allemands, alors que les ouvrages français ne comportent que très peu de textes d'auteurs pour la jeunesse. Cela peut paraître d'autant plus étonnant qu'on fait davantage état de la littérature pour la jeunesse dans les programmes français que dans les programmes allemands. En fait, on trouve dans les programmes français une liste de littérature pour la jeunesse bien plus longue que celle qui inventorie les ouvrages classiques, mais les auteurs de manuels français ne choisissent presque aucun texte dans cette liste. Ensuite, en ce qui concerne donc le choix des textes, on constate que les manuels de lecture allemands comportent non seulement une part substantielle de textes pour la jeunesse, mais également un certain nombre de documents produits par des jeunes, ou du moins dans une perspective, dans la perspective d'un adolescent ou d'une adolescente. Alors, à titre d'exemple, on trouve des poèmes d'élèves, des textes tirés d'un journal scolaire fait par les élèves, ou encore des textes d'élèves écrits après leur stage en entreprise. Alors, le choix de ces textes peut paraître étonnant, surtout lorsqu'ils sont structurés de façon peu lisible et comportent des problèmes de concordance des temps, etc. Donc, malgré leur manque de qualité évident en tant que texte, il semble que ces documents aient été sélectionnés précisément parce qu'ils ont été rédigés par des adolescents, l'auteur adolescent légitimant en quelque sorte leur place dans le manuel. Inversement, dans les manuels français, qui contiennent très peu de textes écrits par des adolescents, un tel document doit avoir une qualité exceptionnelle en tant que texte pour que sa place dans l'ouvrage soit légitimée. Alors, vous trouvez par exemple dans le manuel de Nathan un texte d'une adolescente de 13 ans qui s'appelle Stéphanie, et dont le livre a été publié. Et on va souligner la valeur de ce texte à l'aide de modalités appréciatives et d'évaluatifs affectifs dans le texte de présentation de l'auteur. Alors on va nous dire, je cite, « Sa vision du monde des adultes est décapante, son témoignage étonne par son authenticité, la vérité des émotions et des sentiments. » Alors, on trouve par ailleurs des extraits du journal d'Anne Frank dans le manuel de Belin, extraits qu'on trouve d'ailleurs également dans certains manuels allemands. Et on peut penser que, dans ce cas, la qualité va de pair avec la valeur du témoignage pour légitimer le choix du texte. C'est donc là encore, en partie, un choix thématique. Alors, inversement, les manuels allemands, qui comportent dans l'ensemble un pourcentage de textes d'auteurs classiques bien inférieur à celui des ouvrages français, peuvent faire appel à un texte classique pour des raisons thématiques. Alors, dans le manuel qui s'appelle Contexte, par exemple, la thématique analyser les effets des médias appelle un texte de Brecht sur le fonctionnement de la radio. Donc c'est comme si, pour résumer, la thématique pouvait dans certains cas justifier l'apparition d'un texte d'auteur classique dans un manuel allemand, alors que ce sont des textes d'adolescents qui ont besoin de cette légitimation dans le manuel français. Alors, en ce qui concerne les thèmes abordés, donc c'est le deuxième grand point, je voudrais d'abord dire très brièvement, mais je n'aurai pas le temps d'élaborer, que dans les manuels français, aussi bien les textes à lire que les activités proposées portent le plus souvent sur des problématiques textuelles ou discursives en tant que telles. Alors que dans les manuels allemands, cette thématique métatextuelle est bien plus périphérique. Donc ça, je ne le dis que très brièvement. Ensuite, on constate que dans les manuels français, il est question de façon très récurrente de valeurs. Alors les valeurs dont il est question sont souvent la liberté et la fraternité. La fraternité est souvent représentée par son synonyme plus contemporain de solidarité, qui sont donc des valeurs étroitement liées à la Révolution française et ainsi à la France elle-même. Pas d'égalité d'ailleurs, je signale. Alors, vous voyez ça dans les exemples 1, 2, 3 et 4, que je n'aurai pas le temps de traiter dans le détail. Alors, on voit souvent dans ces exemples une coïncidence entre les italiques et les caractères gras. Alors, il faut dire que les italiques, c'est moi qui les ai ajoutés pour les besoins de l'analyse. Les caractères gras se trouvent tels quels dans les manuels. Alors, ce qui montre que les termes qui se rapportent aux valeurs sont souvent accentués typographiquement par les auteurs, qui semblent animés par une volonté didactique concernant leur transmission au lecteur. Donc il s'agit, me semble-t-il, sans doute, de permettre à l'élève de s'intégrer dans la communauté que forme son pays par l'intermédiaire de l'appropriation des valeurs qui y ont cours, que forme son pays et sans doute à une communauté qu'on imagine aller au-delà. Alors, on constate également une certaine insistance sur une portée générale des valeurs en question. Alors, notamment la solidarité est généralement accompagnée de l'adjectif humaine. Donc, en effet, on peut trouver dans ces manuels français une certaine volonté universalisante, qu'il s'agisse des valeurs elles-mêmes ou de la portée de ce dont il est question dans les textes exposés. Donc on trouve souvent des questions après les textes dans lesquelles les valeurs à relever dans un texte sont caractérisées comme étant donc universelles ou humaines. Vous voyez ça en 5 et en 6 par exemple. Et souvent, on trouve d'ailleurs une opposition entre le particulier et l'universel, le texte à analyser étant toujours caractérisé comme tendant vers l'universel, comme vous le voyez par exemple dans 7. Mais c'est en particulier dans les extraits 8 et 9 qu'on voit que l'universel est à considérer comme étant supérieur au particulier. Donc vous avez en 8, en quoi le poète érige-t-il le cas d'Oradour en cas universel? Et en 9, cet ouvrage dépasse la simple évocation d'un destin personnel pour atteindre les valeurs universelles que défend le poète. Donc les verbes ériger en et atteindre impliquent une élévation, respectivement une élévation et le mouvement vers un but visé. De même, donc, l'évocation d'un destin simple est caractérisé comme d'un destin personnel est caractérisé comme étant simple dans l'extrait 9, ce qui renforce encore l'idée d'un mouvement vers un état supérieur à partir d'un état inférieur. Alors, les auteurs des manuels français semblent considérer que les thèmes abordés dans les textes et dans les activités les concernant doivent concerner l'homme en général. C'est ce que montre aussi l'emploi récurrent dans les questions donc, qui suivent des textes du nom homme au sens être humain, déterminé donc par un article défini au pluriel à valeur généralisante ou au singulier à valeur générique, comme vous pouvez le voir dans 10 et dans 11. Alors, cette ambition universalisante contraste avec l'approche particularisante majoritairement employée dans les manuels allemands. Alors, vous voyez par exemple dans la consigne 12, qu'elle semble viser une réflexion sur les lectures différentes que feront d'un même texte les lecteurs appartenant à différentes catégories d'âge, même si elle laisse la possibilité de la généralisation. Donc la consigne 12, que je vais lire directement en français, discuter la question de savoir si et dans quelle mesure il, donc un poème de Hesse sur la vieillesse et sur la mort, ne peut être compris que par des personnes relativement âgées. Alors cette consigne qui oppose donc, différentes générations l'une à l'autre entre en contraste avec l'extrait 11 qu'on a vu avant, donc que je vais lire aussi. L'autobiographie permet de pénétrer dans l'intimité des hommes et elle intéresse les lecteurs pour l'universalité des expériences décrites. Le lecteur y cherche aussi des témoignages d'autres vies pour élargir sa connaissance de l'homme. Alors nous avons ici le lecteur et les lecteurs qui constituent une catégorie analogue à celle de l'homme ou des hommes, qui sont les syntagmes d'ailleurs qui comportent les mêmes déterminants à valeur générique ou généralisante. Donc, dans cet extrait 11, l'auteur énumère, sans modaliser son énoncé, les raisons pour lesquelles le lecteur s'intéresse à l'autobiographie en général. Alors, on peut se demander s'il faut voir dans cette absence de modalité épistémique, on aurait pu avoir une question comme certains lecteurs cherchent peut-être. Est-ce qu'il faut voir dans cette absence de modalité épistémique une modalité déontique sous-jacente, donc le lecteur doit chercher dans l'autobiographie, par exemple, en accord avec la situation didactique? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, la lecture qu'on peut ou qu'on doit faire d'un texte, c'est encore une question qu'on peut se poser, est-elle universelle au même titre que les valeurs? Alors, il me semblerait qu'on pourrait dire ici qu'il s'agit d'une démarche qui fait abstraction du contexte, de lecture en l'occurrence, notion pourtant si centrale en didactique ces dernières décennies. Alors, encore un thème dont il faut parler, ce sont les problèmes d'adolescence. Alors, il s'avère en effet que dans les manuels allemands, les principaux thèmes, ce sont les problèmes d'adolescence, enfin, ce sont l'adolescence en général et ses problèmes. Alors, par l'intermédiaire de ces sujets et de la façon dont ils sont abordés, les ouvrages en question dessinent l'image d'une adolescence comme une tranche d'âge à part, différente de l'enfance d'un côté et de l'âge adulte de l'autre. Le manuel permet aux jeunes de s'informer sur soi, de se sentir appartenir à la communauté des adolescents, à ne pas confondre avec celle des adultes. Vous voyez ça par exemple dans l'extrait 14, que je n'aurai malheureusement pas le temps de lire in extenso. Alors cette opposition entre l'adolescence et l'âge adulte est également présente dans les activités proposées par les manuels. Alors, vous trouvez par exemple dans le manuel qui s'appelle Wortstag un texte ironique dans lequel un narrateur père décrit les habitudes de sa fille de 15 ans. Or, ce texte est suivi d'une activité dans laquelle les apprenants sont appelés à écrire un texte dans le même style sur leur père. Donc, l'adolescent a ainsi un droit de réponse et entre dans une interaction argumentative avec le texte, interaction dans laquelle il garde le dernier mot. Alors, vous trouvez, c'est intéressant, dans un manuel français, un contexte analogue, c'est le cas dans le manuel de chez Nathan, où c'est en revanche un adulte qui a le droit de clore l'interaction argumentative avec le texte. Alors, on a là un extrait tiré de ce livre de Stéphanie dont je vous ai parlé, de cette adolescente de 13 ans, dans lequel Stéphanie se moque du conformisme vestimentaire et du choix des lieux de vacances de ses parents. Et on trouve ensuite la question suivante, que vous avez en 15. L'attitude de Stéphanie présente-t-elle les défauts que la jeunesse attribue généralement aux adultes? Je vous préviens, la réponse est oui. Ensuite, la dernière activité qui se rapporte au même texte, est reproduite en 16. Rédigée sous forme de dialogue, la réponse qu'un pépère ou qu'une mémère pourrait faire à Stéphanie. Pépère et mémère entre guillemets. L'auteur demande ici donc à l'apprenant, à l'élève, de prendre de la distance par rapport à sa propre réalité de vie, comme le dirait le manuel allemand, y compris d'ailleurs des mots de ce qu'on pourrait appeler la langue des jeunes qu'emploie Stéphanie. On demande à l'apprenant adolescent d'adopter un point de vue d'adulte. Alors, une tâche semblable suit une chronique tirée du magazine pour jeunes Phosphore dans le manuel de Magnard. Donc, après avoir écrit deux paragraphes dans le même style que celui de Phosphore, l'élève doit, je cite, transformer la première phrase de la troisième partie de manière à en faire un message destiné à des adultes lecteurs d'un journal comme Le Monde ou Le Figaro. Donc, il s'agit donc là d'écrire en s'adressant à un lecteur adulte. Autrement dit, dans le manuel français, la communication entre les générations est promue au lieu d'être mise en question, et le jeune est censé apprendre à communiquer non seulement avec l'adulte, mais aussi comme un adulte. Hein. Il faut cependant dire que ces activités dont je viens de parler pour le manuel français sont en réalité exceptionnelles. Le thème de l'adolescence n'y est que rarement abordé. Alors, pour terminer ce que je viens de dire des thèmes abordés, je vais parler du thème de l'amour qui est traité dans les ouvrages des deux pays. Alors, c'est un thème qui est traité de façon infiniment plus explicite dans les manuels allemands, notamment en ce qui concerne l'attirance physique. Là, je vais vous en parler, au risque de vous choquer, j'applique tout de suite ce que Chantal demandait tout à l'heure. Donc, dans le manuel qui s'appelle Magazin, par exemple, il est question d'érotisme, de relations sexuelles, d'amour entre des jeunes à plusieurs reprises. Alors, vous trouvez par exemple un extrait d'un roman pour adolescents, dans lequel il est question d'un jeune homme qui se retrouve dans la situation embarrassante de devoir gérer en public une érection provoquée par le regard un peu trop insistant qu'il a jeté sur les seins d'une jeune fille assise en face de lui dans un train. Ensuite, ces deux jeunes gens qui ont eu l'occasion de faire connaissance se demandent comment ils vont désigner l'acte sexuel qu'ils envisagent d'entreprendre. Donc, après avoir passé en revue un certain nombre d'expressions qui relèvent des registres standards, familiers, vulgaires et scientifiques, expression désignant cet acte, ils finissent par se mettre d'accord sur un terme personnel qu'ils sont seuls à comprendre parce qu'il fait allusion à une expérience commune. Alors, de façon diamétralement opposée à ce traitement très explicite de l'acte sexuel, vous trouvez dans le manuel de Hatier la consigne que j'ai donc reproduite en 17 qui se rapporte au poème « L'amoureuse », donc dans « Mourir de ne pas mourir » d'Éluard. Relevez dans la première strophe les vers qui expriment la fusion amoureuse. Quelles sont les marques grammaticales, pronoms personnels, déterminants possessifs, prépositions qui traduisent cette fusion ? Autre exemple dans le manuel de Belin, il s'agit d'analyser un tableau représentant un couple qui n'a visiblement plus rien à se dire et de réfléchir sur l'amour et sur la vie à deux à propos de « Oh les beaux jours » de Beckett, pièce qui met en scène un couple du même type. Hein. Donc ces sujets de réflexion ne portent toute évidence pas sur les problèmes qu'on aura à 15 ans, mais plutôt sur ceux qu'on peut avoir à 40 ans peut-être. Et donc ça ne porte pas sur les adolescences, mais sur des couples d'adultes. Hein. De même, le sentiment amoureux dont il est question dans un poème de Louise Labbé peut poser un problème d'identification à l'adolescent, étant donné la date de composition du poème. Hein. Mais ce qui est envisagé dans le manuel français, ce n'est justement pas l'identification, hein, semble-t-il, mais une prise de distance par rapport à un sentiment envisagé, non pas du point de vue particulier de l'adolescent, mais dans une perspective universelle, une fois de plus. Hein. Alors, enfin, mon dernier point, c'est le positionnement du récepteur. Alors, la présence du récepteur est marquée par l'intermédiaire de différents procédés dans les manuels de lecture, hein, que je n'aurai pas le temps d'aborder. Je me concentrerai ici en particulier sur ce qu'on peut appeler le récepteur évaluateur. Hein. Alors, dans les manuels des deux pays, on demande en effet parfois à l'apprenant d'évaluer des textes. Alors, dans les ouvrages français, où ce type de consigne est d'ailleurs rare, l'évaluation attendue est quelque peu orientée. Alors, vous voyez ça en 18 et en 19. Qu'est-ce qui, pour vous, fait l'intérêt de ces deux textes, de Maupassant et de Vincenot, en 19? Quelles sont, selon vous, les qualités du témoignage de Maurice Genevoix? Alors, dans les deux cas, l'évaluation attendue est de toute évidence positive. L'intérêt des deux textes en question, ainsi que les qualités du témoignage, étant présupposés et ne pouvant donc pas être interrogés en tant que tels dans la réponse de l'apprenant, si cette dernière reste dans les marges prévues par la question. Alors, il s'agit davantage pour le récepteur de réfléchir aux qualités d'un texte que d'exprimer une véritable évaluation personnelle. Alors, les consignes suivantes dans un manuel allemand qui s'appelle Verstehen, portant sur une série de poèmes dont la plupart sont des classiques de la littérature allemande, fonctionnent de façon tout à fait différente. Vous avez ça donc en 20, je passe directement au français. Lequel de ces poèmes classiques, dans la grande majorité, vous plaît le plus? Justifiez votre jugement. Lequel vous plaît le moins? Écrivez une lettre à l'auteur dans laquelle vous présentez vos réserves contre le poème de façon argumentée. Donc c'est le poème de Goethe, Schiller, etc. Alors, il est entendu ici que l'apprenant s'exprimera de façon dépréciative sur l'un des poèmes présentés dans le manuel. Dans ce manuel, c'est une absence de jugement dépréciatif qui rendra problématique l'accomplissement de la tâche proposée. Donc, l'apprenant doit exercer son jugement critique, y compris par rapport au texte littéraire présenté dans le manuel. Alors, je conclue. Là où le manuel français propose au lecteur de s'intégrer dans la communauté des Français cultivés, connaissant la littérature classique, voire dans la communauté de l'humanité. Le manuel allemand lui suggère une appartenance à la communauté des adolescents qui s'oppose à celle des adultes. Alors, l'adolescence est donc une période qu'il s'agit de vivre pleinement et d'apprendre à gérer dans les manuels allemands, hein, et dont il s'agit de se distancier à travers les ouvrages français pour s'élever vers l'âge adulte. Hein. Juste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai peut-être 30 secondes. Les problèmes d'adolescence dont je parle, c'est l'obésité, les autres ne m'acceptent pas, mes parents me font suer, l'acné, qu'est-ce que j'en fais, etc. Hein, donc ce sont des choses vraiment à ce niveau-là. Donc un récepteur élève français qui apprend à apprécier, hein, les productions occupant une place haute dans le champ littéraire ou considérées comme ayant une valeur de témoignage dans une thématique importante dans l'histoire française, s'oppose à un récepteur individuellement dont le jugement critique, y compris dépréciatif, est sollicité, voire anticipé par l'auteur. Hein. Bref, dans les manuels français, on enseigne à l'apprenant futur citoyen à s'intégrer dans la société française, alors qu'on cherche dans les manuels allemands à faire émerger l'individualité de l'apprenant, y compris contre les textes de la littérature classique, et à l'inscrire dans une classe d'âge.
Merci beaucoup pour un exposé très intéressant, une belle illustration de l'opposition généralisation-particularisation, où on voit très bien quand même l'idéologie universalisante française qui apparaît, et la pédagogie du modèle. Si vous croisez les deux, pédagogie du modèle et tendance universalisante, ça vous donne effectivement cette orientation massive. La démonstration est quand même, elle est très belle, hein, elle est convaincante. Voilà, je vous laisse la parole, Olga.
Vous avez évoqué les manuels actuels allemands et français. Et je voudrais vous poser une question diachronique. Est-ce qu'il y avait beaucoup de changements entre les programmes et les manuels de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest avant la chute du mur? Et quels changements est-ce qu'on a pu remarquer à l'unification de l'Allemagne?
Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question qui est très intéressante parce que je n'ai pas étudié les manuels d'Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Vous avez vu, donc, j'imagine, dans la liste des manuels que tous les manuels sont postérieurs à la chute du mur. Donc, je ne le sais malheureusement pas.
D'accord.
Il y a eu, en revanche, une évolution dans l'histoire. Je n'ai pas étudié ça encore pour les manuels de 3e, je l'ai étudié pour les manuels de CE1. On voit une certaine évolution au cours de l'histoire, notamment, c'est l'idée, c'est ce qui me vient maintenant, je n'ai pas mon analyse devant les yeux, mais ce qui est allé en se renforçant dans les manuels français, c'est l'attitude méta. Donc métadiscursive, métatextuelle, c'était pas le cas dans les manuels des années 30, 40, 50, voire 60 encore, c'est venu plus tard. Désolée, c'est vrai qu'elle est une question intéressante, mais que je ne peux...
Très souvent, les analyses de manuels se limitent en fait au changement de thématique. Alors que là, on est dans une perspective véritablement didactique d'approche des contenus qui peuvent être les mêmes et cette approche est complètement différente d'un pays à l'autre.
Oui, bon, moi je. Là, je retrouvais quelque chose un peu de similaire, mais alors par rapport aux Américains, à la réception du texte littéraire, on sait que les professeurs de français aux États-Unis sont un peu déstabilisés parce qu'ils posent des questions générales par rapport au texte. Et finalement, au contraire, la culture américaine par rapport au texte littéraire, c'est ce qu'on ressent individuellement, etc. Donc, par rapport à l'Allemagne, on peut aussi peut-être généraliser... du côté des Américains et des Canadiens, parce que c'est un petit peu les mêmes réponses qu'on a dans les thèses à l'heure actuelle, et la difficulté que pose l'enseignement de la littérature à travers la dissertation aussi, etc. C'est un peu cette problématique, ça se rejoint, je pense.
Oui, je crois que ça se ressemble. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'évaluation du texte qu'on demande à faire à l'élève. Je n'ai pas étudié les manuels américains, mais je suis allée à l'école aux États-Unis et je n'ai pas ce souvenir là, enfin je n'ai pas ce souvenir qu'on faisait ce genre de choses, alors qu'en Allemagne c'est vraiment très très important. C'est le dernier point qu'on a à traiter dans son plan d'explication de texte, hein, jugement critique sur le texte, et on sait bien que si on n'a rien de négatif à dire, on est mal. Hein. Donc là je pense que c'est une réaction au nazisme, hein, qui est venue, donc, j'imagine, à partir des années 60. Hein, donc, devenir un citoyen critique, trouver à redire à tout. Hein, c'est un peu l'idée. Hein.
Sauf qu'en France, c'est vraiment l'idéologie courante, c'est le développement de l'esprit critique des élèves. Hein. C'est vraiment, on en parle énormément. Ouais. Justement, on ne le voit pas dans les manuels. C'est justement ça. C'est une bonne démonstration d'effet idéologique, en fait.
Mais pour compléter là, par rapport au sujet-objet, hein, je voulais simplement dire que les études, enfin les thèses, hein, qui travaillent un petit peu là-dessus, disent que donc en France on sert le texte, hein, alors que évidemment aux États-Unis on sert la réception, c'est-à-dire c'est à l'étudiant, à l'apprenant, à dire ce qu'il ressent et peu importe à la limite s'il trahit le texte, s'il s'éloigne du texte, etc. Ouais.
Dans le guide pédagogique de l'un des manuels que j'ai étudié, d'ailleurs en Allemagne, on trouve l'une des questions à laquelle donc on cherche une réponse, qui est à quoi sert la littérature ? Donc là, c'est vraiment l'inverse. Hein. C'est la littérature qui sert, hein, et non pas le texte littéraire qu'on sert.
La problématique de l'évaluation, elle devient un petit peu différente. Là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on évalue, oui. Est-ce qu'on évalue le fait qu'il y ait eu critique ou est-ce qu'on évalue éventuellement la pertinence des critiques exactitude des critiques, quels sont les critères utilisés plus l'évaluation est personnalisée, individualisante, plus l'évaluation devient problématique.
Oui, je dirais qu'on évalue la pertinence de l'argumentation, hein, dans la critique. Est-ce que c'est pertinent ? Mais on est vraiment encouragé à critiquer absolument tout. Hein.
Voilà. Oui. En écoutant cet exposé très intéressant, je ne vais pas manquer d'ailleurs d'aller sur Internet pour piquer l'article qui est sur Marge Linguistique. Je dirais que ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est que ça correspond malheureusement à beaucoup d'expériences d'élèves en France. Et il y a une question vraiment fondamentale à se poser. Hein. Est-ce que l'enseignement de la langue n'est pas quelque chose qui déshumanise, qui dévitalise quand on touche à la poésie ? Beaucoup de gens, des générations, se sont plaints que la façon dont on présentait les poèmes en France ressemblait à de la dissection. Il y a un problème, comme dirait Bess, qui différenciait parler de parler d'eux. Tout se passe comme si la langue, c'était la langue de la grammaire, alors des grammaires en plus, hein, parce qu'il faut dire qu'on exporte actuellement, la France exporte son modèle, disons, scolaire, que j'appellerais moi dissuasif, hein, dégoûtant, dans un certain nombre de ses parties. Il y a des éléments que je défends, hein, je pourrais même défendre des choses, mais je n'ai pas le temps. Mais je vais aller dans le sens du poil, comme on dit vulgairement, puisque je suis très vulgaire. Alors, la langue de la grammaire, la grammaire de phrase, grammaire de l'énonciation, grammaire de texte, qui est un modèle que la France exporte, notamment en Algérie. Enfin, il paraît que les Canadiens font la même chose. Alors, ça, c'est gravissime, parce que finalement, on est avec des gens qui vont vers la littérature pour vivre, fantasmer, imaginer, comme semble-t-il on a compris en Allemagne, et finalement qu'on dissuade au nom de la distanciation, alors au nom d'une intellectualisation, ce qui d'ailleurs nourrit la critique anti-intello que beaucoup d'analyses ont remarqué chez les jeunes. Merci.
Je répondrai que je trouve, en ce qui me concerne, qu'il y a en Allemagne, en revanche, pas assez de prise de distance, pas assez d'intellectualisation et confusion un peu constante, j'en ai pas trop parlé, parce que je ne pouvais pas parler de tout, entre le texte et le monde. Hein. Donc vous trouvez constamment des consignes du type « qu'est-ce qui se passe là ?» Là étant évidemment dans le texte. Hein. Donc il y a, même dans les manuels de CE1, il faut construire des phrases correctes. Alors on a des phrases fausses qui sont tout à fait des phrases correctes, hein, juste qui ont comme référent quelque chose qui n'est pas très courant dans notre monde. Donc il y a confusion en Allemagne, je dirais fréquemment, entre texte, monde, contenu, enfin signifiant, signifié, etc. Enfin, il ne faut pas non plus aller à l'extrême opposé. Hein.
faire, c'est que le problème n'est pas de savoir où on met le curseur, mais à quel moment on le met, avec quels élèves, pour faire quoi, avec quels
élèves. Ouais, c'est sûr.
Il faut leur dire, bon, arrêtez d'utiliser la grammaire textuelle, et puis dites un peu ce que vous pensez, réagissez, et à d'autres moments, on leur dit, ne racontez pas n'importe quoi sur le texte, quand même, parce qu'il a un certain poids, les variations culturelles, on ne veut pas dire non plus n'importe quoi dessus, donc là, on va aller au contraire du côté de l'objectivation, et on retrouve le modèle objet sujet. Alors, on nous fait signe qu'il faut arrêter tout de suite, mais...
Je m'interrogeais juste sur ces questions d'évaluation dans le cadre européen qui est commun ou qui est supposé commun. Il est évident que là, par exemple, pour les langues étrangères, les moyens d'évaluer par rapport aux critères ABC retenus, ça va être difficile avec ça.
Ah ben, on ne peut pas évaluer de la même façon un enseignement qui n'a pas du tout les mêmes objectifs, je dirais. Et peut-être si je peux juste conclure là-dessus, ce que je voulais dire, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la généralisation, la particularisation sont particulières, elles aussi.
C'est le concept de Morgon, va introduire sans doute demain le concept de singulier. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours du général, il y a toujours du particulier, mais dans des environnements différents qui font que le résultat est un résultat singulier. Donc on oppose généralisation, particularisation et singularisation. C'est le troisième terme. Il aime beaucoup les modèles style Sainte Trinité. Il faut que ça tourne. Pour que lui, ça tourne, il faut qu'il y ait trois éléments. C'est très français. Voilà, merci beaucoup.